France Culture.
Talmudique. Il est écrit dans le chapitre 31 du Deutéronome, en son verset 19, « Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique, un verset duquel les maîtres et les commentateurs en ont déduit un commandement, le 613e commandement de la Torah, à savoir que chacun a l'obligation d'écrire un livre de la Torah, c'est-à-dire l'obligation d'écrire le livre de sa vie, le livre par lequel sa propre vie reçoit un sens. Un livre qui, comme dit Barthes, dans la préparation du roman, soit une déclaration de sujet, c'est-à-dire un livre dans lequel l'auteur ne refoule pas le sujet qu'il est. Un livre qui, en quelque sorte, est une enquête continue, un mot qui se dit midrash en hébreu, sur ce que nous sommes, sur notre passé et notre futur, nos peurs, nos espérances, nos liens et nos rencontres, un livre aussi qui permet de découvrir l'événement. Nous écrivons et nous lisons pour cela, disait Maurice Blanchot, pour découvrir ce livre qui n'est jamais que le livre à venir, invitant encore et encore à lire et à écrire et à traduire aussi. Rosie Pinchas Delpuech, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wachnil.
Rosie Pinchas Delpuech, c'est un très grand plaisir de vous recevoir dans Talmudique. Vous êtes écrivaine, éditrice et traductrice de l'hébreu et du turc. Et ce livre à venir, ce midrash, cette enquête continue dont j'ai parlé, et la mitzvah d'écriture que j'ai évoquée, se manifeste avec une clarté, un éclat et une force toute particulière dans votre dernier ouvrage intitulé « Naviguer à l'oreille » qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Naviguer à l'oreille, comme le verbe « naviguer » l'indique, c'est d'abord voyager. Voyager en bateau, cela évoque l'eau et la mer, le vent et les vagues, les marins et les ports, et tout cela réuni dans une ville mène à la ville, à la grande ville. Cette grande ville, c'est Istanbul, qui fut Constantinople et avant Byzance, un espace qu'il faut connaître et comprendre pour entrer dans votre univers, dans votre midrash et celui de vos ancêtres, Rosie Pinchas Delpuech.
Je suis une fille des villes, je me considère comme une espèce d'Alice dans les villes. Très tôt, petit enfant, je tenais la main de ma mère et j'ai le souvenir des rues d'Istanbul qui m'ont marqué aussi physiquement dans mon corps dès que dans une ville, il y a des montées du macadam. Je me sens bien, comme un souvenir d'enfance.
Parce qu'à Istanbul, il y a beaucoup de montées.
Il y a beaucoup de montées, c'est comme Rome, c'est la ville aux sept collines. De part et d'autre du Bosphore, donc on monte de la mer jusqu'aux habitations, jusqu'aux rues, et ça monte. C'est une ville tout en montée et descente, c'est une ville sonore, c'est pas pour rien sûrement que mon destin de traductrice vient de cette ville entre deux continents en plus, unique au monde,
oui.
Entre l'Europe et l'Orient.
Oui, avec le Bosphore au milieu. Alors vous dites une ville sonore, Istanbul et le quartier de Galata, où vous, votre mère et votre grand-mère ont habité avec sa célèbre tour, et justement une tour de Babel, où l'on parle de nombreuses langues, et vous dites en une musique qui ressemble à du Gershwin et du Bernstein.
Tout à fait, parce que je trouve que Gershwin et Bernstein, tous les deux, ont une musique urbaine. Ce n'est pas de la musique romantique, c'est la musique de New York. C'est ça que j'entends. New York que j'ai adoré, où je ne suis allée qu'une fois, mais c'est comme si je l'avais habitée, que je la connaissais, que j'ai participé à sa fabrication. C'est une rhapsodie de ville.
Istanbul, on l'entend bien avec cette musique de Gershwin, ça swing.
Ça swing, c'était encore autre chose, parce que Istanbul de mon enfance, dans les années 50, c'était des sonorités de langue. C'est pas pour rien que je suis devenue traductrice. Il y avait trois grandes communautés, grecque, arménienne, juive, plus les cris des marchands ambulants. turque, avec des accents de province, de la mer Noire. Ça chantait à mes oreilles en permanence. Puis il y avait les cloches des églises, il y avait le chant du muezzin, et tout ça était dans mes oreilles avant même que je parle.
C'est magnifique, et Istanbul, c'est ces voix dont vous parlez, c'est aussi des chefs politiques dont l'un eut et continue à avoir un rôle essentiel pour la Turquie et qui eut un rôle central dans la construction des identités familiales de votre famille. Je pense bien sûr à Atatürk et à ses yeux bleus dont la couleur chante en filigrane tout le long de votre livre, Rosy Pinchas del Puech.
Absolument, et c'est effectivement une couleur de surmoi, mais c'est un personnage qui existe dans la maison avant que j'aille à l'école, parce que ma mère et ma grand-mère étaient absolument admiratrices d'Atatürk, et elles avaient vécu sa mort en 1938, qui avait été un événement absolument cataclysmique. Le père de la nation était mort, le fondateur de la République était mort. Et donc, il y avait déjà cette statue du commandeur avant que je le voie en portrait. Et puis, à l'âge de 5 ans et demi, je vais à l'école primaire turque. Et jusqu'à aujourd'hui, en Turquie, où que vous alliez, vous avez le buste du commandeur, qui vous regarde en train d'apprendre à écrire. J'en ai encore une bosse au doigt qui tenait le crayon. Et il fallait être un enfant obéissant de la nation, de la République turque, dont le grand Atatürk était le fondateur et qu'il avait donné aux enfants pour qu'ils apprennent. J'ai été très, très marquée par cette éducation républicaine de mes débuts, et je lui reste fidèle.
C'est-à-dire que Atatürk, il faut le préciser, tenait absolument que tous les enfants de la Turquie sachent lire et écrire.
Absolument.
Et il avait fait cette révolution de l'écriture qui permettait que le turc s'écrive en caractère latin et non plus en caractère arabe, et ça a été une révolution extraordinaire, importante psychologiquement, intellectuellement et je dirais presque esthétiquement.
Absolument, j'ai lu des choses tout à fait intéressantes. Ça a été contesté récemment. Des intellectuels turcs ont dit oui, mais ça nous a complètement coupé de nos sources ottomanes que nous ne pouvons plus lire. Moi, je suis absolument une enfant de vous qui vous êtes intéressée aux alphabets. Une enfant de l'alphabet latin, avec ses lettres géométriques qui étaient faciles à écrire. Une barre verticale, une barre transversale, une barre horizontale et des pages entières. La Turquie est un pays immense qui fait 770 000 kilomètres carrés, un tiers de plus que la France, et qui est un grand rectangle, un grand pont entre l'Occident et l'Orient. Et donc, Atatürk envoie des instituteurs jusqu'au fin fond de la Turquie, jusqu'en Perse, jusqu'en Caucase, pour alphabétiser les enfants turcs. Et il y a eu des instituteurs dévoués, en blouse blanche, comme les hussards de la République en France, qui sont allés aux confins de la Turquie alphabétiser les enfants turcs.
J'ai l'impression, en vous écoutant, que ça ressemble beaucoup à l'esprit de l'éducation dans le judaïsme, qui insiste sur le fait que tout un chacun doit être lisant et écrivant dès le jeune âge. Il y a très très peu d'analphabétisme, oui, on peut dire de manière générale dans le judaïsme, mais j'ai l'impression que c'est la même chose en Turquie.
Très forte, qui fait que j'ai posé il n'y a pas longtemps la question au sujet de la tradition orale, de la Torah, et je suis une enfant de l'écrit, j'ai toujours du mal à comprendre l'oralité. J'adore le théâtre, c'est une chose, mais ce moment absolument inaugural dans ma vie, où Flora, ma grand-mère, dans ce bouquin, m'aide ensuite Byzantine, elle est en train d'éplucher des légumes, elle épluche des gombos, qui ressemblent, le gombo est un petit légume qui ressemble à un crayon, à la pointe de crayon. Et alors elle épluchait le pourtour, elle avait un couteau pointu, et j'étais en train de faire mes lignes de ABC. Et il y a une lettre que j'arrivais pas à faire. Et donc, avec la pointe de son couteau, sur mon cahier et l'a gravé, la lettre dans le bon sens pour que je fasse pareil. Et voyez-vous, jusqu'aujourd'hui, je n'oublie pas ce geste de graver une lettre dans un cahier. Et c'est écrit. Donc, on ne peut pas dire le contraire. Donc, on ne peut pas mentir. Ce mensonge qui m'accompagne et que je révèle en quelque sorte dans Naviguer à l'oreille, avec l'histoire.
Alors justement, Naviguer à l'oreille, votre dernier livre est un livre sur la vie et les langues, sur la vie des langues, de la vie avec les langues. C'est un livre sur le conflit dramatique qui parcourt toute votre vie depuis l'enfance, un conflit linguistique et existentiel au-delà de la langue turque quotidienne, entre le français du père et l'allemand de la mère, dont seule une troisième langue inattendue, l'hébreu, vous affranchira. Il y a là une forme de dialectique hégélienne dont je voudrais que nous explorions chaque partie. Mais avant de parler de l'allemand de votre mère, parlons fleurs, si vous le voulez bien. Le nom de votre grand-mère était Flora, celui de votre mère Greta, diminutif de Margaret, Marguerite, et vous vous appelez Rosie. Qu'est-ce que cela fait d'être inscrit dans une généalogie florale, une généalogie de fleurs, Rosie Pinchas del Puech?
Ce sont des noms de fiction, ce ne sont pas les vrais noms de ma grand-mère ni de ma mère. J'avais besoin, c'est comme ça que je commence d'ailleurs le livre, j'avais besoin d'en faire des personnages de fiction tout à la fin d'une vie, pour prendre la distance suffisante, pour pouvoir les écrire, pas comme un récit, pas comme de l'autobiographie, mais je les ai vécus comme des personnages. Et personnellement, je n'aimais pas mon nom quand j'étais enfant, du tout. Maintenant, je me suis réconciliée avec. Mais quand vous me posez la question, c'est peut-être pour accompagner mon nom que je leur ai donné aussi des noms de fleurs, et j'aime beaucoup les fleurs. J'aime ce qui pousse de la terre au printemps. La terre est un lieu des morts. Et il y avait des morts dans notre famille. Et les fleurs qui commencent à pousser de la terre, c'est tout le contraire. C'est de l'espoir, c'est de la vie.
Vous parlez de Flora, qui n'est pas le vrai nom de votre grand-mère, mais c'est votre vraie grand-mère.
Absolument.
Et sa langue, c'est une langue qu'on n'a pas encore évoquée dans toutes les langues dont nous avons parlé, c'est le judéo-espagnol. Et les histoires, la forêt obscure des histoires et des contes, c'est aussi le long voyage de l'exil depuis 1492, en passant par d'autres pays et d'autres langues, que l'on retrouve aussi à Istanbul. C'est important pour vous, ce judéo-espagnol?
Absolument, c'est important de manière très particulière que j'ai toujours besoin de préciser parce que je n'ai pas, et d'abord elle est morte quand j'avais 11 ans, elle ne nous parlait pas le judéo-espagnol, elle était allée à l'école de l'Alliance israélite universelle et donc elle parlait parfaitement le français et elle nous parlait le français pour ne pas mélanger des langues et parce que mon père avait dit cette langue ne s'écrit pas, voyez-vous. D'où me vient aussi l'écrit. En revanche, elle le parlait avec ma mère, donc on ne peut pas me vendre en espagnol, je comprends parfaitement. Donc, il est dans ce brouhaha de langue gershwinien, il est là, mais je ne le parle pas.
L'allemand de Greta, votre mère, mais ce n'est pas son nom, et on gardera le secret et le suspense, je ne le connais pas, je vous le dis, vous ne l'avez pas dit. C'est une longue histoire, cet allemand de Greta, celle que vous racontez dans ce livre, qui commence avant votre naissance, avec le parcours scolaire de votre mère, qui va suivre un cursus en langue allemande. Qu'est-ce qui explique l'existence de ces écoles allemandes en Turquie, en 1933, la date où elle va à l'école? Il y a là un pan de l'histoire peu connu d'une immigration diversifiée et en plusieurs étapes, souvent de qualité, en provenance de l'Allemagne, Rosie Pinchas del Puech.
De l'Allemagne, en fait, de beaucoup de pays proches de la Turquie, de l'Empire ottoman à l'époque. Les Allemands, je l'ai découvert parce que je suis partie vraiment faire un voyage dans le temps. J'ai voulu comprendre cet Allemand. Le français, je savais. Et puis j'ai écrit dans une histoire française, justement. Mais l'Allemand de ma mère, qu'était-il? D'où venait-il? Comment elle est tombée là-dedans? Et donc, si vous voulez, j'ai découvert qu'en 1873 environ, les Allemands viennent en Turquie pour construire un chemin de fer qui est comme l'Orient Express, mais qui doit aller jusqu'en Irak, jusqu'à Babylone. Je crois que ça s'appelle d'ailleurs Babylone Express. Et je découvre aussi qu'en 1915, c'est le train qui va exiler une partie des Arméniens chassés de l'Empire ottoman en 1915. Et donc, les Allemands installent, en même temps que leur chemin de fer, des employés, des hôpitaux et une école, Bürgerschule. C'est son premier nom, Bürgerschule, l'école allemande pour les employés allemands. Mais très vite en Turquie, si vous voulez, ces écoles étrangères, il y en a une italienne, il y a hôpital, école, italien, allemand, français, anglais, autrichien. Il y a tout ça dans la ville. Comme les minorités, on les appelait comme ça, les non-musulmans, c'était les minorités, n'avaient pas le droit d'aller dans les très rares écoles avant Atatürk, avant qu'il ne quadrille le pays, d'écoles laïques. Il y avait des écoles réservées aux élites, donc il n'y avait pas où apprendre. Et donc il y a, comme vous le dites, cette obligation d'apprendre chez les Juifs et chez les autres communautés aussi. Donc ils allaient dans les écoles possibles. Mon père est allé au lycée Saint-Joseph, et donc ma mère, dont je découvre dans ce livre, j'ai voulu m'avancer, vraiment dans le brouillard, me dire c'était quoi le contexte historique, parce qu'une histoire familiale n'a aucun intérêt si elle n'est pas nourrie d'histoire. Et donc, j'ai découvert que là où Flora et Greta habitaient, au pied de la tour de Galata que vous appelez très joliment la tour de Babel, c'était le cas, il y avait vraiment plusieurs communautés, il y avait un jardin d'enfants où Flora met la petite Greta. Elle va dans un jardin d'enfants allemand, ça détermine le restant de sa vie, à elle et par ricochet à moi. Parce que après, elle continue l'école primaire et l'école secondaire dans ce qui continue d'être, si je ne me trompe pas, Bürgerschule, et qui après devient Deutsche Oberrealschule, qu'elle a adoré. Elle disait ça comme moi je disais Notre-Dame de Sion, mon lycée français. Je veux dire, on est marqué non pas par de la colonisation, ni de l'occidentalisation, mais par de la culture. C'est comme ça que je le revendique très profondément. Et par un multiculturalisme, le mot n'existait même pas, mais il était dans la ville.
Wenn Sie in Amerika sind oder wenn Sie nach Europa kommen, was ist geblieben und was ist unrettbar verloren?
In das Europa der Vor-Hitler-Zeit, ich habe keine Sehnsucht. Das kann ich nicht sagen. Was ist geblieben? Geblieben ist die Sprache.
Mhm. Und das bedeutet viel für Sie?
Sehr viel. Und ich habe immer bewusst abgelehnt, die Muttersprache zu verlieren. Ich habe immer eine gewisse Distanz behalten. Sowohl zum Französischen, das ich damals sehr gut sprach, wie zum Englischen, das ich ja heute schreibe.
Das wollte ich fragen. Sie schreiben heute in Englisch?
Ich schreibe in Englisch, aber...
On vient d'entendre la voix d'Anna Arendt dans un célèbre interview avec Günther Gauss, et le passage que nous avons entendu et que vous citez dans votre livre s'intitule « Que reste-t-il ? » Il reste la langue maternelle, dit-elle. Pourquoi la réflexion de Anna Arendt est si importante pour vous dans cette enquête sur l'allemand de votre mère, sur le rapport entre langue et politique, Rosie Pinchas-Delpuech ?
J'ai écouté beaucoup d'allemands très attentivement, justement pour retrouver. Et alors, quand vous passiez le passage là, je comprenais et puis je comprenais pas. Je comprenais et puis je comprenais pas. Et c'était exactement comme quand ma mère parlait, je comprenais et puis je comprenais pas. Parce que, je veux dire, il y a une différence fondamentale entre Hannah Arendt et ma mère. Hannah Arendt, c'était la langue de sa maman. Dans le cas de ma mère, c'est pas la langue de sa maman. C'est pas sa Muttersprache, c'est une langue adoptée, avec adoration, comme une culture, très très tôt. Sauf que, et c'est toute la vie d'Anna Arendt, et c'est tout son travail, là-dedans arrive le national-socialisme, Hitler. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là que je découvre que ma mère, en 1933, à l'avènement de Hitler et du national-socialisme en Allemagne, est dans son lycée allemand, Deutsche Oberrealschule. Que se passe-t-il à ce moment-là? Et je découvre le grand Atatürk en 1933, quand Hitler chasse les Juifs et que Atatürk les invite à venir en 1933 en Turquie pour fonder l'université d'Istanbul en gestation. Et donc, une liste que j'ai trouvée de 144 universitaires, chercheurs, Auerbach, Leo Spitzer, des musiciens, des membres du Quatuor Amar, enfin, des gens absolument incroyables, des médecins, des ophtalmologues, viennent à Istanbul se réfugier. Et Hitler dit à Atatürk, mais enfin, pourquoi vous prenez ces criminels? Et Atatürk dit, cette espèce de petit sergent ne va pas me donner des ordres, parce que lui est un grand vétéran de la Première Guerre mondiale. Et donc, j'en ai déduit, et je le savais par ma mère, parce qu'elle rencontrait des camarades de classe dans la rue, avec lesquels elle parlait avec enthousiasme l'allemand, dans les années 50. Et donc, tous ces intellectuels juifs allemands qui viennent se réfugier à Istanbul ont évidemment des enfants. Et ces enfants-là se retrouvent dans la classe de Greta, d'où son merveilleux allemand. D'ailleurs, j'écoutais l'accent d'une même époque. Il y a la voix de la cigarette de Hannah Arendt. Ma mère avait une voix de soprane. Mais c'est le même allemand. Et c'est évidemment, ça me touche beaucoup.
Alors, l'enquête que vous menez sur la vie de Greta continue. Et on la voit quitter le lycée, ce lycée allemand dont on vient de parler. Elle commence à travailler comme secrétaire de direction dans une entreprise où le directeur est un Allemand venu de Hambourg. Nous sommes en 1937, il est pour elle comme un père de substitution, ce qui est important pour elle, qui fut orpheline très tôt, de cet homme marié et sans enfant, désenfanté, dites-vous, et comme dit Rachi à propos d'Abraham, Greta, votre mère, hérita plusieurs meubles et objets dont un canapé bibliothèque Art déco 1930 qui deviendra pour vous un bateau ivre et surtout un bateau livre. Racontez-nous, Rosie Pinhas-Delpuech.
C'est très joli le bateau livre parce que c'en est un. Effectivement, il y a toute une partie qui s'appelle Paul Peter Danielsen qui était le nom véritable là, du coup que je n'ai pas changé parce que il est tout un programme et tout un personnage en soi et que je ne l'ai jamais revu après l'âge de 3 ans. Donc c'est un imaginaire d'enfant. Et donc cet homme, avec sa femme, parlant l'allemand, ressemblait pour moi absolument à l'ogre et à sa femme des contes de Grimm que ma grand-mère Flora me racontait en même temps que les Midrashim. Elle passait de l'un à l'autre, c'est ma grand-mère conteuse. Et donc, je les imaginais désenfantés et peut-être mangeurs de petits-enfants. Et ils avaient dans une superbe villa du Bosphore, où j'étais allée enfant et dont je garde absolument un souvenir félinien, vraiment. Un Marcord, c'est ça, c'est le navire, là. Et donc, quand ils sont partis, vers 1952 peut-être, ma mère n'a pas hérité, elle a acheté avec mon père, sûrement à bas prix, les très beaux meubles art déco du couple Danielsen, dont ce merveilleux canapé qui avait un coin bibliothèque et un abat-jour dont je parle toujours, au papier veiné jaune, dont je regardais les veinures. Et j'ai commencé à lire là-bas, tout le temps. Et dans le livre, ça m'est venu, j'ai dit que j'avais l'impression, jusqu'aujourd'hui, de continuer à lire sur ce canapé. Il fallait que je fasse mes devoirs. Et je me souviens d'une scène que je décris dans le livre, qui est une scène de somnambule, insomniaque, un truc bizarre, où en pleine nuit, je m'étais levée pour aller me mettre dans le coin où je lisais, mais c'était dans le noir. C'était un canapé bleu marine qui avait des ressorts vieillis, qui grinçaient, qui piquaient les fesses. Et c'était en même temps contre une fenêtre où des nuages passaient. Et tout ça a absolument nourri mon imaginaire d'enfant, qui est absolument vivace. Les mots sont là-bas, ils viennent de là-bas.
Tout au long de votre livre, on découvre l'importance des voix et de la radio. Quelque chose de très binyaminien, pas n'importe quelle radio, c'est la Blaupunkt 8W79 et ces boutons que l'on tourne pour changer de son, de voix, de fréquence, de musique. Boutons d'une radio posée sur le zinc d'un bar, dans un salon ou une cuisine, mais aussi dans notre tête, car dites-vous, il y a des radios intérieures. Rosie Pinhas-Delpuech, parlez-nous de cette radio qui semble être un objet fondamental, comme le divan que vous venez d'évoquer, un écho du milieu de votre vie au sens que Barthes donne à cette expression.
Je l'avais absolument gravé dans mon esprit, je n'avais pas de photo de cette radio, et je l'ai retrouvée sur Internet tout à fait comme si je retrouvais la photo d'une autre grand-mère, une ancêtre. Parce que c'était un autre objet magique de la maison, à cet âge où les objets animés, inanimés, n'ont pas de frontières. Pour l'enfant, l'objet et le vivant ne sont pas tout à fait distincts. Et alors, cette radio avait un tissu pour protéger son haut-parleur, et elle vibrait comme la voix, je posais ma main dessus. Et elle avait un œil. Ce que j'ai appris après, à l'âge de 12 ans, comme celle d'un cyclope, qu'elle s'appelle Blaupunkt. C'était un gros œil plutôt vert, qui devenait bleu, et sur lequel on pouvait suivre la stabilité de la fréquence. Et il y avait des gros boutons, comme dans un bateau, où on navigue, parce que cette radio était immense, comme les très grosses télés. Elle faisait 16,9 kilos, c'est énorme. Elle avait donc des boutons pour changer de fréquence en ondes courtes, ondes moyennes et longues ondes. Donc, en tournant le bouton, c'est comme si je naviguais, parce que je changeais de langue. Il y avait le bulgare du pays à côté, le grec. Le soir, on captait la France. Radio Monte Carlo, la famille Duraton, dont je parle plus tard dans le livre, c'était une map monde sonore pour moi. Et je m'amusais beaucoup. Et il y avait les noms des villes en allemand. Et ce qui était très particulier et moderne dans cette radio, c'est que au milieu, au-dessous de l'œil de Cyclope, il y avait une douzaine de boutons de stations pré-enregistrées qui portaient des noms allemands. Mais il fallait savoir que quand on appuyait sur Stuttgart, c'était Istanbul. Et quand on appuyait sur Leipzig, c'était Radio Ankara. Et donc, l'enfant que j'étais, sans savoir ce qu'elle deviendrait aujourd'hui et en ce moment devant vous, appuyait sur Stuttgart et savait que c'était Istanbul pour l'émission pour enfants, par exemple. Donc, j'ai été très très tôt une enfant de la radio, et ça a été mon atlas sonore, cette radio.
Atlas sonore et de traduction. Et justement, entre les langues, entre les voix, celle de la rumeur du monde, celle de la radio, celle de la ville, celle des pays en guerre, c'est tout un monde sonore, un monde d'écoute. Et un jour, vous vous apercevez que ce monde est aussi celui de la tradition biblique, une tradition, dites-vous, je vous cite, où Dieu veille, voix invisible qui se donne uniquement à entendre, écoute, shema en hébreu, et fonde par cette injonction une civilisation de la voix. N'est-ce pas là le point d'incandescence, le cœur de votre midrash personnel, de votre enquête, son moteur, son éclat et sa force, Rosie Pinhas-Delpuech?
Oui, tout à fait. C'est un livre militant en même temps, militant pour la radio. Mon précédent livre, j'insistais beaucoup sur le journal, le papier, le journal, l'écrit que j'aime. Et dans ce livre, à un moment où tout le monde est extrêmement fasciné par l'image, j'ai besoin, sans mener un combat d'arrière-garde, de dire, écoutons, la radio et le son sont pour moi, pour l'esprit, pour le cerveau, une source d'imagination et d'intelligence. Parce que on peut imaginer ce qu'on veut quand on entend une voix, et rien n'est fixe. Quand je vous entends à la radio, Marc-Alain Wachnin, selon ce que vous dites, selon le temps qu'il fait, je vous imagine autrement d'une émission à l'autre. Et j'adore cette richesse de la voix, et c'est la raison pour laquelle mon livre se termine sur Shema Israël, écoute Israël, qu'on peut interpréter de deux manières, avec ou sans la virgule. Une injonction, écoutez Israël, qui va très mal en ce moment, ou écoute virgule, toi Israël. Il n'y a pas de virgule en hébreu. Mais cette civilisation de non-image d'un Dieu aussi, qui n'a, ça m'impressionnait beaucoup dans mon enfance. On me disait, il n'a pas de visage. Oh, il n'a pas d'œil non plus, mais il voit. Donc, toute cette civilisation abstraite de l'écrit, de la voix, elle m'interpelle aujourd'hui à un moment où tout ça est en question et je ne pense pas mener un combat d'arrière-garde. Je n'ai pas envie. Je veux que nous écoutions, que nous nous écoutions.
Merci Rosie Pintras-Delpuech pour cette conversation. Je vous propose de la poursuivre la semaine prochaine autour de la question de l'hébreu et de la traduction et de l'édition. Et en attendant, je rappelle le titre de votre livre, on le comprend mieux maintenant, « Naviguer à l'oreille, un grand bonheur, un vrai voyage dans le temps et l'espace ». Merci encore Rosie Pintras-Delpuech.
Merci à vous et merci de votre lecture Marc-Alain Wachnin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Tar Bouklifa. À la réalisation, Alexandra Malka, Coltouv, Leitraot, au revoir. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.